Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Le 18 août 2025, la collaboration LIGO-Virgo-Cagra a détecté des ondes gravitationnelles issues de la fusion d'un système binaire d'étoiles à neutrons, mais en dessous du seuil de masse classique. Au moins une des étoiles à neutrons avait une masse inférieure à celle du Soleil. Et puis le Tweaky Transient Facility a cartographié la localisation approximative de cet événement et a découvert une source transitoire coïncidant spatialement et temporellement avec le déclenchement des ondes gravitationnelles. La première semaine de suivi a révélé des propriétés similaires à celles d'une kilonova de type GW170817. Mais les suivis ultérieurs suggèrent des propriétés plus proches de celles d'une jeune supernova de type 2B à enveloppe dépouillée. Une analyse approfondie montre qu'il pourrait s'agir en fait des deux dans un nouveau processus qu'on appelle une super kilonova. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Alors rappelons que le phénomène de kilonova est associé à la fusion de deux étoiles à neutrons, qui produit une explosion riche en création d'éléments lourds. Et une étoile à neutrons est le résidu d'une supernova, à effondrement de cœur, de type 2. Mais il existe aussi des modèles théoriques qui prédisent que dans certaines conditions, une étoile massive qui s'effondre gravitationnellement peut former non pas une étoile à neutrons, mais deux, ou même plus. Il faut pour cela que l'étoile massive soit en rotation très rapide. Il existe deux variantes. Soit un disque d'accrétion se forme juste avant l'explosion proprement dite, à cause de la grande vitesse de rotation, et puis se fragmente jusqu'à former une ou plusieurs petites étoiles à neutrons, ou bien le cœur de l'étoile massive fissionne sous l'effet de la rotation lors de l'effondrement, formant alors deux étoiles à neutrons au lieu d'une dans la supernova. Le résultat est le même. À l'issue de la supernova, il reste au moins deux étoiles à neutrons très proches l'une de l'autre qui se tournent autour donc à grande vitesse et se rapprochent très vite. On connaît la suite. Elles devraient très vite fusionner et donc produire une kilonova, en plus de la supernova qui a eu lieu quelques heures auparavant. Un tel phénomène a été envisagé théoriquement, mais n'a jamais été observé. Mansi Kaslivar de Caltech et ses collaborateurs sont parvenus à cette conclusion pour AT2025ULZ qui a été détectée le 18 août, quelques heures après l'alerte donnée par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Le Tweaky Transient Facility, le ZTF, qui est une caméra installée à l'observatoire Palomar, a été le premier à localiser un objet rouge s'estompant rapidement, situé à 1,3 milliard d'années-lumière et localisé dans la même région que la source d'ondes gravitationnelles S250818K. L'événement, initialement nommé ZTF-25ABJMNPS, a ensuite été renommé AT2025ULZ par le serveur de nom de phénomènes transitoires de l'UAI. Une douzaine d'autres télescopes ont été braqués alors sur la cible pour en apprendre davantage, notamment l'observatoire Keck à Hawaï, le télescope Fraunhofer de l'observatoire Wendelstein en Allemagne et un ensemble de télescopes à travers le monde du programme GROWTH, le Global Relay of Observatories Watching Transient Happen, qui est dirigé donc par Kaslival. Les observations ont confirmé que l'éruption lumineuse s'était rapidement estompée et avait émis une lueur rouge, tout comme GW170817, 8 ans auparavant. Dans le cas de la kilonova emblématique GW170817, les couleurs rouges provenaient d'éléments lourds comme l'or, par exemple, créés lors de la fusion par les flux intenses de neutrons. Ces atomes possèdent davantage de niveaux d'énergie électronique que les éléments plus légers, bloquant ainsi la lumière bleue tout en laissant passer la lumière rouge. Alors, quelques jours après l'explosion, AT2025ULZ a recommencé à briller, cette fois avec une teinte plus bleue, et a révélé la présence d'hydrogène dans son spectre. Autant de signes d'une supernova, et non d'une kilonova. Plus précisément, d'une supernova à effondrement de cœur et enveloppe dépouillée. Mais on ne s'attend généralement pas à ce que les supernovas provenant de galaxies lointaines génèrent suffisamment d'ondes gravitationnelles pour être détectables par LIGO et Virgo, contrairement aux kilonovas. Alors bien qu'AT2025ULZ ne ressemble pas tout à fait à la kilonova classique GW170817, elle ne présente pas non plus les caractéristiques spectrales d'une supernova ordinaire. De plus, les données d'ondes gravitationnelles de LIGO et Virgo ont révélé qu'au moins une des étoiles à neutrons impliquées dans la fusion avait une masse inférieure à une masse solaire, suggérant ainsi que deux petites étoiles à neutrons auraient pu fusionner pour former une kilonova. Lors de l'éjection de métaux lourds, la kilonova aurait initialement émis une lumière rouge, donc observée par ZTF et d'autres télescopes. Et puis l'expansion des débris issus de l'explosion antérieure de la supernova aurait ensuite masqué la kilonova aux astronomes. Alors en principe, des étoiles à neutrons stables peuvent exister et atteindre une masse aussi faible que 0,1 masse solaire. Mais la formation d'une étoile à neutrons de masse inférieure à une masse solaire, ça représente un défi majeur pour l'évolution stellaire. Des simulations détaillées de l'effondrement du cœur et de l'explosion en supernova d'étoiles massives à rotation lente prévoient une limite inférieure robuste à la masse d'une étoile à neutrons qui est de 1,2 masse solaire. Une limite inférieure similaire d'ailleurs s'applique aux masses des étoiles à neutrons qui sont formées par l'effondrement induit par accrétion d'une naine blanche. La seule solution pour former une étoile à neutrons de masse inférieure à celle du Soleil, c'est d'identifier un environnement riche en neutrons, car la masse de Chandrasekhar est proportionnelle au carré de la fraction d'électrons. Un tel environnement gravitationnel riche en neutrons est possible immédiatement après l'effondrement d'une étoile en rotation rapide. La fission du cœur d'une étoile en effondrement en deux étoiles à neutrons au lieu d'une seule a été théorisée il y a 40 ans par Durizen et Tolin, c'était en 85, puis confirmée par Imsenik et Popov en 98, et aussi plus tard par Davis et collaborateurs en 2002, puis Postnov et collaborateurs en 2016. La condition nécessaire est une très grande vitesse de rotation de l'étoile massive. Par ailleurs, il a également été proposé que si l'enveloppe stellaire possède un moment angulaire suffisant, elle pourrait former initialement un disque de matière maintenu en suspension par la force centrifuge plutôt que de s'accréter directement sur l'objet compact central. La production d'un disque d'accrétion massif et instable qui se fragmente puis s'effondre pour former une étoile à neutrons suite à un refroidissement par neutrino incontrôlé ou bien à la dissociation de particules alpha a quant à elle été théorisée par Pirro et Pfahl en 2007, puis par Metzger et collaborateurs en 2024 et encore récemment par Lerner et collaborateurs en 2025. Ce processus est qualitativement similaire au mécanisme qui est proposé pour la formation de planètes dans les disques protoplanétaires, ou bien d'étoiles dans les disques de noyaux actifs de galaxies. Et si le disque s'enrichit en neutrons suite à la capture d'électrons par des protons, la limite inférieure de masse de Chandrasekhar pourrait permettre la formation d'étoiles à neutrons de masse inférieure à celle du Soleil, comme l'ont montré Metzger et collaborateurs en 2024. Ce phénomène a récemment été illustré d'ailleurs par Chen et Metzger en 2025 à l'aide de simulations hydrodynamiques. Ces auteurs ont constaté que la fragmentation En un spectre d'objets de masse comprise entre 0,01 et une masse solaire est observé pour les disques à taux d'accrétion élevé. Si le disque se fragmente en plusieurs étoiles à neutrons, eh bien ces corps peuvent s'apparier en binaires serrés, soit par fission à partir d'un unique amas en effondrement, soit par friction due à l'entraînement des gaz. Et si plusieurs étoiles à neutrons se forment par ce processus, la coalescence ultérieure de ces étoiles à neutrons binaires, possiblement après un délai de quelques minutes à quelques heures suivant l'effondrement, eh bien, constitue donc une source potentielle d'émission d'ondes gravitationnelles en quasi-coïncidence avec la supernova. Et si le disque se fragmente en une seule étoile à neutrons subsolaire, eh bien celle-ci fusionnera peu de temps après avec l'étoile à neutrons centrale, c'est-à-dire celle issue de la supernova qui est d'une masse ordinaire. Ou bien même un trou noir de faible masse qui serait créé par l'effondrement du cœur, ce qui créait donc un seul signal d'onde gravitationnelle. Mansi, Casleval et ses collaborateurs penchent plus vers la solution d'une telle fragmentation au sein du disque d'accrétion, plutôt que celle de la fission directe du cœur de l'étoile massive lors de la supernova. Selon eux, un indice fort, c'est la faible masse de S250818K, déterminée par la méthode du SHIRP, qui laisse entrevoir la possibilité d'observer la fusion d'une ou deux étoiles à neutrons subsolaires, soit entre elles, ou soit avec l'objet compact central résiduel de l'explosion. Deuxièmement, la similarité de AT2025ULZ avec les supernovas à enveloppe dépouillée suggère que l'étoile progénitrice a pu interagir dans un système binaire, ce qui lui aurait conféré un moment angulaire suffisant pour former un disque d'accrétion susceptible de se fragmenter lors de son effondrement. Il précise que les mécanismes d'accélération de la rotation des cœurs d'étoiles massives au stade tardif de leur évolution peuvent être très divers et dans certains cas peuvent concerner des progénitrices contenant des quantités modérées d'hydrogène et d'hélium. Par exemple, une fusion stellaire survenant peu avant l'effondrement du cœur pourrait à la fois accélérer sa rotation et donner naissance à une supernova de type 2B. Troisièmement, selon les auteurs, l'évolution inhabituelle de la couleur pourrait indiquer le mélange d'une faible quantité d'éléments du processus R, c'est-à-dire la nucléosynthèse par enrichissement rapide de neutrons, contribuant à l'opacité pendant un certain temps, jusqu'à ce que le nickel devienne dominant. Quatrièmement, les chercheurs mentionnent que l'environnement local de la formation stellaire active de la galaxie haute de AT2025ULZ, c'est un lieu propice à de tels événements d'effondrement de cœur. Alors bien sûr, l'étude de cette super kilonova candidate n'est pas finie. L'établissement d'une association plus solide entre le signal gravitationnel S250818K et le transitoire optique AT2025ULZ nécessite une modélisation théorique plus détaillée et aussi des observations tardives et sensibles. Le suivi tardif de la courbe de lumière, c'est-à-dire en ce moment, pourrait notamment être comparé à l'échauffement qui est attendu par le nickel 56. La spectroscopie dans l'infrarouge, en particulier avec le télescope Webb, permettrait en outre de contraindre directement la composition des éjectas. La forte densité du milieu environnant dans les régions de formation stellaire active pourrait aussi faciliter les détections radio tardives. Des données radio et X supplémentaires permettraient par exemple de déterminer l'existence ou non d'une composante relativiste non thermique tardive, c'est-à-dire un G. Si le disque d'accrétion où les fusions d'étoiles au sein du disque alimentent des G relativistes, eh bien ça pourrait conférer une asymétrie à l'explosion de la supernova le long de l'axe de rotation et créer une rémanence non thermique si le G parvient à traverser l'enveloppe éjectée de l'étoile. En revanche, une enveloppe plus large pourrait étouffer tout G alimenté par accrétion, rendant les signatures du moteur central moins apparentes que dans les sursauts gamma traditionnels. Alors bien que les détections radio et X tardives corroborent cette hypothèse, leur absence ne l'exclut pas non plus. La preuve la plus convaincante de ce modèle serait sans doute la présence dans la signature des ondes gravitationnelles de signes de fusion multiples. Par exemple, la fusion d'étoiles à neutrons subsolaires suivie de la fusion d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Une telle double fusion n'est attendue dans le cadre du modèle de la superkilonova que si le disque d'accrétion s'est fragmenté pour former plusieurs étoiles à neutrons subsolaires. En revanche, elle n'est pas attendue si le cœur en effondrement s'est fissionné directement en deux étoiles à neutrons qui ont ensuite fusionné, ou bien si la fragmentation a formé une seule étoile à neutrons subsolaire qui a fusionné ensuite avec une étoile à neutrons centrale. À l'avenir, de nombreuses méthodes permettront de vérifier la validité de cette potentielle signature de superkilonova. Grâce aux futurs interféromètres à ondes gravitationnelles plus sensibles, on devrait pouvoir observer un nombre bien plus important de détections de fusion d'étoiles à neutrons binaires subsolaires, avec une signification statistique accrue et une meilleure localisation, bien sûr. Et puis la recherche d'une signature similaire à celle d'une supernova à enveloppe dépouillée et à effondrement de cœur devrait être aisée maintenant, même à des distances considérables, grâce à la prochaine génération de télescopes comme l'observatoire Vera Rubin, ou bien le télescope spatial Raman, ou encore le satellite UVEX. Tout phénomène transitoire ressemblant à une jeune supernova à enveloppe dépouillée coïncidant avec la fusion d'étoiles à neutrons subsolaires ou la fusion d'une étoile à neutrons et d'un trou noir devrait en tout cas faire l'objet d'un suivi approfondi à toutes les longueurs d'onde. Une modélisation théorique plus détaillée des superkilonovas, notamment des prédictions de courbes de lumière et de spectres, permettrait aussi aux observateurs d'optimiser leurs observations de suivi. Lorsque GW170817 s'est produite à une distance relativement proche, la preuve de l'association multimessager était flagrante, la distinction entre une kilonova et une supernova étant alors très nette. Mais comme c'est le cas ici, les futurs événements à multimessager pourraient être différents de GW170817 et se produiront probablement beaucoup plus loin, en présentant des similitudes avec les supernovas. Et aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité de discerner une véritable symphonie à multimessager, une supernova à effondrement de cœur associée à une fusion d'étoiles à neutrons, voire deux fusions quasi simultanées pouvant impliquer également un trou noir, c'est-à-dire une superkilonova. L'article de Mansi Kaslivar et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 995, qui date du 15 décembre 2025. Il s'intitule AT2025ULZ et S250818K, une superkilonova candidate à partir d'un déclenchement d'ondes gravitationnelles de type subsolaire. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !